Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Racal a fait partie de l'aventure aurovillienne dans les années 70. En quête de sens, l'utopie de cette ville nouvelle fait écho en lui. Dans une première partie de l'émission, Racal revient sur son histoire et nous parle de son parcours.
Donc on va revenir peut-être au début, au fondement. Donc toi Racal, qu'est-ce qui t'a amené ici sur ces terres indiennes en 1971 je crois?
Alors en 69 en fait, la première fois. Qu'est-ce qui m'a amené J'étais à cette époque-là un étudiant qui n'avait pas très bien réussi, donc j'étais un peu en errance, j'essayais plusieurs voies, la photo, j'étais auditeur libre dans des universités de droit, de littérature, de mathématiques, enfin voilà. Et puis tout d'un coup, mon frère est revenu d'un voyage qu'il avait fait pendant ses congés d'été en 69, et où il avait découvert Pondichéry, le projet d'Auroville, qui était tout naissant à cette époque-là. Et ce qu'il m'en a dit m'a vraiment convaincu et enthousiasmé. Donc je me suis dit, voilà, ça c'est quelque chose que je vais faire, ça c'est sûr, c'est super. Je me souviens, j'étais très intéressé par tout ce qu'il avait ramené aussi en termes de témoignages sur... je pourrais appeler ça la révélation ou la clarté. La révélation, la clarté que Mère et Sri Aurobindo avaient apporté et qui accompagnaient le projet de la création d'Auroville. C'était donc pas Auroville en soi, un lieu, etc., mais c'était vraiment tout ce contexte d'une compréhension beaucoup plus grande, d'une intelligence fine, il y avait tout un tas de dimensions, je me rappelle plus exactement ce qui me touchait à cette époque-là, mais je sais qu'il y avait vraiment quelque chose d'important. Et puis, donc 2 ans, je m'étais fixé 2 ans, je faisais des choses à ce moment-là, et puis ça s'est précipité. Et il y a eu tout un tas de circonstances qui ont fait que, dès novembre, j'étais en Inde, à Auroville. Et là, je suis resté 6 mois. Et ça a été évidemment un tournant dans ma vie, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y avait Auroville, point à la ligne. Tu vois, et tout allait se passer à travers Auroville.
Donc là, on est en quoi, 69, hein, c'est ça?
69 et jusqu'au milieu 70.
Donc là, il y a aussi tout un contexte en Europe et en France, mai 68, la révolution culturelle, libérale. Alors parle-moi un peu de ce contexte de l'époque et pourquoi est-ce que tu as fait le choix de venir ici? Tu aurais pu aussi faire partie de ceux qui voulaient incarner le changement en Europe?
J'ai participé aux événements de mai 68, j'ai été sur les barricades, mais j'étais pas un militant, j'étais pas un très très actif, j'étais parmi ceux qui étaient là et qui prenait de la joie, qui prenait du plaisir, qui trouvait du sens à participer à quelque chose qui était mené à droite, à gauche, où il se passait beaucoup de choses. Mais encore une fois, j'étais pas un militant. Donc pour moi, il n'y avait pas une ligne de vie qui s'inscrivait à partir de mai 68. Il y avait tout un tas de mouvements de libération, une autre manière de vivre certainement qui était là et qui était importante, mais il n'y avait aucune perspective après ça. Et encore une fois, je te rappelle, hein, j'étais dans une errance entre guillemets au début de ma vie d'adulte avec absolument aucune indication sur qu'est-ce que j'allais faire. Enfin, il y avait des choses qui me tentaient, mais c'était pas très très ancré.
Donc cette notion de mettre du sens, hein, tu parles de ligne de vie, donc trouver un chemin finalement pour pouvoir s'épanouir dans sa vie.
Je me souviens qu'à cette époque-là, il y avait quelque chose qui me frappait beaucoup, c'est que j'hésitais à m'engager quelque part parce que j'avais la forte impression que si je m'engageais quelque part, alors je me coupais de tout le reste. Donc pour moi, il n'était pas question de me concentrer sur ceci ou sur cela parce que dès que je le faisais, je me coupais du reste. Et en arrivant et en me mettant en contact avec cette possibilité que représente Auroville à l'époque, ça a complètement basculé. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose en moi qui a dit « Ah, là, j'ai pas de problème, je peux m'engager quelque part parce qu'en fait, j'ai accès à tout. J'ai accès au tout. » Quelle que soit la chose que j'allais faire, je savais que j'avais accès au tout. Il y avait quelque chose qui était... Il y avait une espèce de dichotomie entre le tout et le spécialisé ou le concentré qui n'existait plus.
Quitter la France en 1969 ou après 1971 pour venir vivre ici, c'est pas rien, c'est quand même un choix important. Donc tu dis que tu étais porté par ce message de la mère et de Sri Aurobindo. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu de ce message. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce que tu as entendu des propos rapportés par ton frère? Qu'est-ce qui a fait que ce soit une pensée assez forte pour tout quitter en Europe?
Je me souviens plus très bien des idées de cette époque-là. Qu'est-ce qui m'avait marqué? Mais il s'est passé quelque chose qui était sans mots et qui a été radical. C'est que il y a eu vraiment une attraction qui s'est faite entre moi et ce projet. Et qui s'est concrétisé par le fait que peu de temps après que mon frère m'ait parlé de ça, et m'ait vraiment, j'ai été convaincu, enthousiaste, et que j'avais prévu que j'irais dans 2 ans, j'ai rencontré une jeune femme, et puis j'ai commencé à lui parler de ça qui me tenait à cœur. Elle m'a regardé en souriant, et au bout de 10 minutes, elle m'avait laissé parler, elle m'a dit « Bah, moi, je suis l'arrière-arrière petite fille de mère ». Donc tu vois, déjà ça commence. Avant ça, il s'était pas aussi passé quelque chose, c'est que mon frère m'avait ramené des photos de mère, de Sri Aurobindo, etc. Et à un moment donné, il m'a montré une photo. Et c'était, je me souviens très très clairement de l'impression que j'ai eue à ce moment-là. Je la connaissais, waouh. Alors que je ne l'avais jamais rencontrée. Je la connaissais complètement, je me sentais totalement à l'aise avec elle, avec son sourire, avec ses yeux, avec son regard. C'est comme si elle me prenait littéralement. Et finalement, je pourrais dire aussi, elle me disait, bon, on y va, oui, tu viens, on continue de travailler. Puis il y a eu d'autres trucs encore qui ont été, tu vois, tout a poussé. Donc c'est ça, en fait, qui a été. C'était pas une idée en particulier ou des idées. Après ça, je peux parler, effectivement, de ce que c'est qu'Auroville, de ce qui était intéressant, de qu'est-ce qui se passait à cette époque-là. Je dirais, essentiellement, c'est, en termes d'idées, c'est ce que tu disais, c'est ce que tu relevais au début, c'est-à-dire la question du sens. Oui, c'est la question du sens. Hein. Bon, c'est une question qui est... Je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais cette espèce de pensée. Je me disais, mais c'est curieux quand même, parce que j'ai très nettement la sensation d'être moi, et moi uniquement, et pas un autre. Tu vois, la sensation d'être moi. Oui. Et en même temps, tout le monde peut se dire la même chose. Donc j'étais très questionnant cette espèce de contradiction qu'il y a entre être soi-même et de le sentir, d'avoir vraiment cette expérience, et en même temps de penser que c'est universel. Et alors, quelle est la relation entre ce que les autres vivent comme moi et moi, ce que je vis comme moi? Est-ce qu'il y a des ponts? Tu vois? Donc, finalement, c'était un peu poser la question de notre unité et du sens de l'humanité au-delà des individus qui la composent. Non pas nier l'individu, mais en tous les cas... Je crois que j'étais très intéressé aussi par l'idée qu'il y avait une suite à l'homme, que l'homme s'arrêtait pas là, que l'évolution s'arrêtait pas là. Donc c'était ça beaucoup, et je me souviens les premiers temps, donc j'étais à Auroville, à Inspiration, etc. C'était ça qui était là tous les jours. Tous les jours, il y avait des c'était plein de ça. C'était, on vivait, on expérimentait, la vie était très très particulière à ce moment-là, mais peut-être que tu veux poser d'autres questions.
Oui, tu as utilisé des mots, on va les définir. Donc tu parles de Auroville, de la mère, de Sri Aurobindo. Donc qui sont la mère et Sri Aurobindo? Revenir un petit peu sur ces personnes qui pourtant ont été marquantes et inspirantes.
Bah, il y a, je lisais récemment quelque chose à propos de ça justement. Il y a en Inde... quand la référence à quelque chose qu'on pourrait appeler le divin, Dieu aussi on l'a appelé, bon, mais on écarte un peu le mot Dieu parce que en Occident c'est un peu équivoque, et mais le divin, quelque chose qui est plus grand, plus large, qui nous habite en même temps profondément, mais en même temps qui nous dépasse, quelque chose qui est universel, qui est transcendant même. Et alors, en Inde, il y a une particularité, c'est que ça ne les embête absolument pas de considérer que ça, ça s'incarne. Donc, ils ont cette notion qu'il y a des avatars, c'est-à-dire des canaux humains qui incarnent plus complètement, plus puissamment, plus extraordinairement toute cette conscience auquel, en général, les humains n'ont pas accès, ou bien par petites bribes, et qui sont là pour aider, qui sont là pour visiblement leur action à ces avatars qu'on a connus. Il y a le Christ, le Bouddha en était un. Ça a marqué des époques dans l'évolution de l'humanité. Et on voit bien les historiens ou les analystes, les scientifiques qui analysent socialement toutes les évolutions qui ont eu à ces périodes-là, nous montrent bien qu'on est passé d'une ère à une autre et que ça a marqué l'évolution de la Terre. Donc ils ne sont pas du tout embêtés avec ça, ils ne sont pas du tout embêtés non plus avec l'idée que ça peut être personnifié. Donc du coup, c'est un peu une introduction pour parler de ces deux êtres que sont la mère et Sri Aurobindo, et pour dire que ils ont été en quelque sorte des canaux, des channels comme on dit en anglais, de quelque chose qui marque une prochaine étape dans l'évolution terrestre. C'est pas quelque chose qui se passe à la hauteur d'une vie, c'est-à-dire c'est pas sur 10 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, non, c'est des mouvements beaucoup plus longs, beaucoup plus lents, beaucoup plus progressifs. Et cette idée que, l'homme n'est pas le sommet évolutif, l'homme n'est pas le dernier mot de l'évolution. C'est bon quand même, non? Parce qu'on peut pas dire que l'homme, c'est battre l'homme, hein, je veux dire, l'homme, l'humain, les femmes, les hommes, c'est super, il y a des choses extraordinaires, mais quand même il y a des choses qui pourraient améliorer, et de plus ça va à notre époque, plus on sent qu'il y a quelque chose qui presse pour changer radicalement, parce qu'il y a des risques en même temps, hein. Donc voilà, elle est française. Elle est née en France, toute son éducation se déroule en France, mais très très tôt dans son enfance, elle a des expériences qu'elle ne savait pas du tout comprendre à cette époque-là, étant petite fille, parce qu'elle n'était pas du tout connectée à une famille qui était entre guillemets spirituelle. C'est que plus tard qu'elle comprendra les expériences qu'elle a faites. Elle rencontre des gens, elle se développe, etc. Et plus ça va, plus ses expériences prennent de l'importance. Et à un moment donné, elle rencontre un couple qui est très avancé dans ce genre de compréhension et de travail, qui lui donne un peu des indications. Et donc ça l'aide à comprendre, à aller plus loin, etc. Et puis, les circonstances de la vie font qu'un jour, elle voyage, elle se rend à Pondichéry pour rencontrer Sri Aurobindo avec son mari de l'époque. Et là, c'est the rencontre, c'est la rencontre, c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent. Ça, c'est 1914. Elle va, pendant la guerre, être pendant 5 ans au Japon et elle va revenir seulement en 1920. Et là, elle va revenir pour rester définitivement et travailler avec Sri Aurobindo dans le travail spécifique qu'on pourrait décrire en disant que ce sont des canaux très très ouverts, très réceptifs à ça qui veut se manifester à notre époque, à l'époque de la Terre, et qui est quoi ? Et qui est essentiellement un nouveau pouvoir de la conscience. L'évolution, selon Sri Aurobindo, est marquée par le fait qu'il y a sous-jacente à toute l'évolution matérielle qu'on a vue depuis la création matérielle, la vie, l'apparition de la vie, le développement de la vie, le développement des espèces, l'apparition de l'homme, est marquée par une conscience qui se développe et qui s'exprime de plus en plus. Qu'est-ce qui évolue ? C'est le pouvoir de la conscience. C'est ça qu'il dit.
Est-ce que tu peux me définir ce terme de la conscience ? On va peut-être essayer de le clarifier. Qu'est-ce que tu entends, ou qu'est-ce que Aurobindo entend quand il parle de conscience, développer sa conscience, monter en conscience?
Tu vois, là il faut, évidemment, c'est bien que tu poses la question, parce qu'il ne faudrait pas assimiler la conscience à comment elle s'exprime à travers nous. La conscience, par exemple, je donne un exemple, hein, la conscience à travers nous, elle s'exprime à travers la perception que nous pouvons avoir des sens. Je deviens conscient des paroles que je suis en train de prononcer parce que j'ai des oreilles. Il y a tout un mécanisme d'attention et de regard et d'appréciation. Il y a toute une mécanique de ça. Ça concerne l'ouïe, ça concerne le toucher. Donc tout ça, ce sont des instruments qui permettent à la conscience de prendre conscience, c'est-à-dire de connaître ce qui est en dehors, de connaître le monde, de connaître des choses qui ne sont pas nous. Mais ça permet aussi de connaître des choses qui sont en nous, parce que j'ai des sensations intérieures aussi. Ça, c'est au niveau physique. Après ça, je peux aussi prendre conscience de choses plus subtiles. Par exemple, quand je regarde une fleur et que je me dis que c'est un être qui s'exprime, c'est pas un truc par hasard et puis matériel, etc. Il y a une extraordinaire beauté dans une fleur. En Inde, il y a des fleurs magnifiques partout. Un hibiscus, par exemple, tu regardes et tu te dis, si c'est un être qui s'exprime, c'est un mouvement de conscience extraordinaire. Je veux dire par là que c'est un mouvement d'être qui s'exprime dans une grande beauté, dans un grand don de soi, sans rien demander. Puis le soir, ça fane et ça renaît sous une autre forme le lendemain. Donc il y a tous ces phénomènes de conscience, il y a tous ces phénomènes de conscience que nous connaissons bien. Et puis on peut aussi prendre conscience avec notre capacité intellectuelle, notre capacité cognitive. On écoute quelqu'un attentivement, on lui pose des questions, on analyse, on essaye de se faire une idée. Donc là aussi il y a un phénomène de prise de conscience qu'on connaît bien. Mais la conscience telle qu'on l'entend quand on dit que au fond... Le mouvement évolutif, c'est un mouvement de la conscience qui cherche à s'exprimer de plus en plus. C'est une conscience qui englobe tout ça, qui travaille et qui s'exprime et qui a le pouvoir de s'exprimer et d'être consciente à travers tout ça, mais aussi autre chose qui la dépasse complètement. Et là peut-être, je ne sais pas si c'est audible, mais le fondement, une des images et une des réalités essentielles que toute la tradition, je pourrais même l'appeler la tradition religieuse ou spirituelle profonde et vraie, mais en tous les cas toute celle de l'Inde, la réalité extraordinaire, pas ultime mais suprême de l'expérience spirituelle, c'est quelque chose qui en Inde on appelle Sat Chit Ananda. Sat, ça veut dire être. Chit, ça veut dire conscience. Ananda, ça veut dire félicité. C'est un état d'être, c'est un état de conscience, c'est un état de l'être dans lequel on a la très forte perception d'exister sans cause. Je n'existe pas parce qu'on m'a reconnu, parce qu'on me parle, parce qu'on m'écoute. C'est-à-dire, c'est pas la société qui me donne l'impression d'exister. Ou c'est pas ce que je fais, ce que je produis et ce en quoi je suis reconnu qui me donne la sensation d'exister. Ça existe en soi. Il y a tout d'un coup quelque chose qui te tombe sur la tête, si je peux dire cette expression-là, dans laquelle tu es sans cause et tu sens que c'est éternel. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance là-dedans.
Est-ce que ce serait cet état qu'on peut appeler le oneness, où on se sent interdépendant, complètement relié à tout ce qui nous entoure dans ce monde vivant, dans cette matière environnante ?
Oui, la notion de oneness, c'est certainement quelque chose qu'on peut associer à ça. C'est une espèce de... Moi, j'appellerais ça plutôt une espèce de conséquence, si tu veux. Quand tu es dans cet état-là, tu es un avec tout. Parce qu'en fait, tout est ça. Donc tu te relies à tout, je parlais de la fleur tout à l'heure, et c'est là que tu vois que la fleur elle est là-dedans aussi. Et tous les êtres humains sont là-dedans aussi. Alors il y a Sat qui est l'existence, il y a Chit qui est conscience, et il y a Ananda qui est félicité. Donc tu te retrouves dans un état dans lequel tu es conscient, et tu es conscient dans une joie extraordinaire qui n'a pas de cause encore une fois. Donc c'est ça. Tous les yogis, tu vois, toutes les recherches, c'est une autre manière de nommer Dieu, en fait, si tu préfères, tu vois. Donc, ça serait cette conscience-là, ça serait ça, en fait, c'est Satchitananda, c'est pas que la conscience, c'est tout ça qui cherche à s'exprimer, qui cherche à se manifester pour la joie d'être, juste pour la joie. sans désir, sans rien, c'est là, c'est donné.
Et donc cet état de conscience ou cet état d'esprit peut être un état permanent pour certaines personnes comme la mère ou Sri Aurobindo.
Ou en tous les cas, disons qu'ils peuvent y avoir accès à volonté. Ils ne sont pas en permanence là-dedans parce qu'en fait, il y a besoin de faire descendre ça. Et donc il y a besoin de continuer à vivre et d'essayer le plus possible d'incarner, de manifester, d'imprégner toute la vie avec ça. Et c'est vrai que quand on arrive tant soit peu à être en contact avec ça et ensuite de ça à se tourner vers l'action et tout ça, il y a quelque chose qui se passe qui est incroyable, quoi. Toutes les difficultés qu'on rencontre habituellement ne sont plus du tout les mêmes. Ce n'est pas que tout est nivelé et tout ça. Non, ce n'est pas du tout ça. Il y a une grande diversité. La diversité est complètement conservée. Au contraire, on voit les choses... on voit la diversité, c'est-à-dire les différences dans ce qu'elles ont de fondamental et qui les alimentent depuis l'intérieur.
Il y a des mots que je lis, que je vois souvent ici à Auroville, c'est cette notion de travail, de karma yoga. Est-ce que tu peux me définir ces termes-là ? Donc, quand karma yoga, ça n'a rien à voir avec les postures de yoga que nous, on a en tête quand on entend le mot yoga en Europe.
C'est en fait, le karma yoga, ça veut littéralement dire le yoga de l'action, le yoga des œuvres. Autrement dit, c'est une démarche qui consiste à se concentrer sur l'action, sur les œuvres, et à s'y concentrer avec des principes de conscience, que je peux te donner après, qui permettent non seulement de faire le travail, mais de s'unir à cette conscience dont je parlais à travers le travail. Alors, le mouvement principal, une des choses fondamentales dans le karma yoga, dans le yoga des œuvres, c'est le fait que tu agis et tu essayes de ne pas être attaché au résultat. En général, quand on commence une action, on est naturellement tiré par le résultat qu'on en attend. Là, l'effort est porté sur « on se détache du résultat ». Ça ne veut pas dire qu'on n'exerce pas toute sa bonne volonté et tous ses talents pour atteindre le résultat. On est complètement concentré pour rassembler tout ce qu'il y a de meilleur en nous de manière à ce que le résultat soit atteint. Mais on n'est pas attaché au résultat. Et en fait, ce qu'on cherche comme résultat, c'est l'union avec la vérité. C'est l'union avec le fondamental. C'est-à-dire que c'est une union, c'est une unité de conscience.
Ce que tu dis, ça me fait penser à une image de l'enfant qui, avant de marcher, va essayer de se lever et va tomber encore et encore, sans avoir cette attente du résultat que de se lever et de pouvoir marcher. Mais il y a cette notion d'action, de travail, d'essayer, d'avancer, de s'élever, jusqu'à ce que finalement il marche et trouve cet équilibre.
Oui, alors là il y a des nuances à apporter, parce que parfois, quand il tombe et tombe et tombe encore, parfois il se met en colère, il dit « Oh non, encore une fois je suis tombé ». Mais c'est vrai que souvent on voit les enfants qui ont tellement de plaisir à découvrir toute leur capacité d'être corporel, hein, et de commencer à on les voit, ils sont ravissants, ils sont en plein dans la conscience essentielle en fait, ces enfants-là. Ils n'ont pas tellement les moyens de l'exprimer comme nous on voudrait, mais ils sont pleins dans leur sourire, on voit, ils sont radieux, on est vachement touché, hein, par les enfants en général, bien qu'ils soient très démunis. Se trouver dans cet état, je veux dire, d'impuissance par rapport au monde adulte aussi, hein, et puis travailler à s'exercer, à développer tout son corps, toutes ses capacités, encore et encore.
Je reviens à cette notion de karma yoga, donc cette notion d'action et de travail. J'aime bien ce mot travail qu'on entend beaucoup ici à Auroville et qui n'a pas du tout le même sens qu'en Europe, où ce mot-là est quelque chose de très péjoratif finalement. Le travail qui viendrait de la racine latine tripalium, instrument de torture, alors qu'ici il y a cette vraie volonté d'être dans une notion de travail. Donc ce serait chouette qu'on redéfinisse ce terme ou que tu le définisses à ta manière.
Il y a deux choses dans le travail ici qui sont très très importantes. C'est, premièrement, c'est extra parce que on est pas complètement, mais assez fortement libre d'associer le travail avec le gagne-pain. L'idée, au départ, va encore plus loin. Elle veut vraiment complètement se dégager de ça. Et en ça, elle veut rejoindre des expériences qui sont faites actuellement dans le monde, dans lequel tout le monde a un basique. Tout le monde reçoit un basique. et après les gens se débrouillent. Mais tout le monde, quel que soit son statut, etc., tout le monde a un basique qui lui permet de vivre, de manger, de se nourrir, de se soigner et d'être abrité, de dormir.
Oui, c'est ce qu'on appelle un revenu universel de base.
Exactement. Donc l'idée, ça aurait été ça. C'est pas encore tout à fait le cas.
Donc, ici à Auroville.
C'est pas tout à fait le cas, et c'est peut-être pas mal que ça soit pas tout à fait le cas, mais bon, ça c'est encore une autre question. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire, au fond, on a besoin d'une base matérielle, ça c'est sûr et certain, et il faut qu'elle soit assumée. Et c'est une responsabilité collective, pas seulement individuelle. Mais ce qui est essentiel dans le travail, c'est qu'on fasse et qu'on tende vers quelque chose qu'on aime vraiment faire, et dans lequel on se développe, et dans lequel on se développe, et on apprend, et on devient autre. Ça, c'est le premier aspect. Donc, le travail est considéré comme un moyen d'éducation au sens complet du terme. Et concrètement, on voit souvent des gens qui abordent un travail de responsabilité ne sachant rien ou presque rien. Mais il y a un accueil, c'est-à-dire que les gens qui sont en position de responsabilité et d'accueillir des nouveaux, entre guillemets, des novices, le font vachement bien. Parce qu'ils savent très bien que on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se révéler, qu'est-ce qui va être produit à travers ça. Et ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui s'éclatent complètement et qui deviennent des professionnels, entre guillemets, extra. Et heureusement qu'on les a et qu'ils sont devenus ça, tu vois.
C'est encore cette notion de sens et de place, trouver le sens à sa vie et sa place, et donc du coup s'épanouir à travers ça.
L'individu est très très important, c'est la base. Rien ne peut se passer si ça ne se passe pas dans l'individu. Donc on donne à l'individu une grande possibilité dans à l'éducation initiale, élémentaire. Toute l'éducation est faite pour, c'est plus ou moins bien fait, hein, je ne dis pas que c'est parfait, mais la tendance est ça. Et dans le travail, le travail est un moyen d'apprendre et de devenir. Le travail est aussi un moyen de servir la communauté, c'est-à-dire d'apporter quelque chose qui va contribuer au bien de tous. Et non pas au bien de tous pour que tout le monde soit bien content, mais au bien de tous pour qu'on progresse et que l'ensemble puisse se développer davantage, conquérir de nouvelles zones de maîtrise, de nouvelles possibilités, etc. etc. Donc c'est ces deux-là. En l'occurrence, le travail, on pourrait dire, au service de son propre développement et au service de l'ensemble de la communauté.
Donc cette notion du travail fait partie des fondements de la création d'Auroville en 1969, hein, c'est ça ? 1968.
Oui, cette notion de travail, elle est au cœur, c'est-à-dire aussi mère dans les indications, dans les aperçus qu'elle a donnés à propos de la vie d'Auroville et qu'est-ce qui pouvait la guider. Elle a beaucoup insisté sur le travail parce qu'elle dit que finalement c'est à travers le travail qu'on peut progresser vraiment. Tant qu'on est retiré en soi, on peut avoir l'impression qu'on progresse dans le développement de sa conscience. Mais il n'y a que quand c'est confronté dans la vie de tous les jours, à travers le travail, à tout un tas de miroirs que sont les autres, qu'on peut devenir, solidifier, concrétiser, renforcer, développer davantage ces mouvements d'évolution de conscience personnelle. Donc elle se méfiait beaucoup d'une tendance qui aurait été de « Ah, enfin un endroit où on peut être tranquille, on se retire, on se met en tailleur, en méditation et on est tranquille. Il y a des histoires célèbres à ce propos-là de gens qui lui écrivaient, déjà à l'ashram, qui lui disaient « Je veux venir à l'ashram parce que je veux la paix. » Et elle leur disait, en rigolant, elle leur disait « Surtout ne venez pas à l'ashram pour trouver la paix. » C'est un peu ce qu'on dit à Auroville. Les nouveaux venus qui nous disent « Oh, c'est paisible Auroville, etc. etc. » On leur dit « Ah non, bah, venez surtout pas, parce que Auroville n'est pas... » C'est vrai qu'il y a une paix, bien sûr, il y a une paix, bien sûr, il y a une plénitude, il y a une paix, une harmonie, mais on est là aussi pour expérimenter, pour tester, pour mettre à l'épreuve tout ce que nous sommes en termes d'humain, et donc du coup, bah, l'humain, il est là, et on se coltine avec.
Merci, Rakal.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences. voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.